Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Saxic, qui vient nous parler de son premier roman jeunesse, La folle épopée de Victor Sanson, qui vient de paraître chez Flammarion. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Sandrine.
Vous êtes un auteur prolixe, romancier, auteur de pièces de théâtre, scénariste de bande dessinée, avec déjà à votre actif une bibliographie de 14 ouvrages. Vos romans « Les derniers jours » de Stefan Zweig et « Le cas Edouard Einstein » ont notamment été remarqués et même primés. Et puis, vous avez décidé de vous attaquer à un registre qui manquait à votre palmarès, le roman jeunesse. Vos romans sont presque toujours traversés par un souffle historique et rendent hommage à des personnages qui ont marqué leur temps. C'est encore ces sujets, l'histoire et la transmission, qui infusent ce premier roman jeunesse, La folle épopée de Victor Sanson. Alors, quelle est cette épopée que vous racontez? Eh bien, c'est l'histoire initiatique du jeune Victor Sanson. Son père, Jacob, est né avec le XXe siècle dans un pays lointain qu'il a dû quitter après l'assassinat de son père pour rejoindre la France, interrompant en même temps ses études de médecine. À Paris, il rencontre Rachel, qui deviendra son épouse. Souffrant des bronches, le couple s'installe dans le petit village de Mondino, dans un coin reculé de la France. Et les Sansons tiennent l'officine du village, une pharmacie d'antan. Et c'est à Mondino que naît leur fils unique, Victor. La particularité de l'officine est de proposer des rayons entiers d'une boisson gazeuse réputée miraculeuse, la Jacobine. Ainsi, comme son nom l'indique, Jacob en est l'inventeur. Et ce remède, dont lui seul possède la recette, fait des miracles. Et comme souvent pour ce qui est précurseur, elle inquiète autant qu'elle régale les habitants. À la suite d'une histoire que vous découvrirez dans le roman, Victor se met en tête de réaliser le rêve de son père, faire découvrir au monde entier la Jacobine. Nous sommes en 1913 et à la veille d'événements mondiaux déterminants. Et comptant embarquer pour l'Amérique, Victor se retrouve dans les quatre coins du globe. Bien malgré lui, il devient soldat dans les tranchées, espion à Berlin, héros de la Révolution soviétique et acteur à Hollywood. Il croisera sur sa route Albert Einstein, Jean Jaurès, Trotsky, Charlie Chaplin, rencontrera la plus belle des amitiés, les visages de la haine et même l'amour. Donc c'est un véritable voyage initiatique pour Victor Sanson, mais pas que pour lui, puisqu'il entraîne avec lui les jeunes ou moins jeunes lecteurs dans sa quête jusqu'à sa terre promise, qui n'est pas forcément celle rêvée. Alors pourquoi on aime ce roman d'aventure? Parce qu'il est subtil, émouvant, instructif, positif et en même temps porteur des valeurs de chesed, comme on pourrait dire en hébreu, de bonté et de concorde, qu'on souhaite tous inculquer à ses enfants. D'ailleurs, votre roman est dédié à vos fils, je vous cite, pour les remercier d'avoir toujours cru ou fait semblant de croire aux histoires que vous leur inventiez. Laurent Saxic, pourquoi avoir décidé de passer au registre du roman jeunesse?
D'abord, merci pour ce résumé, parce que j'ai revoyagé dans ce roman et l'histoire a l'air très emballante.
C'est le cas.
Donc il y a toujours une forme de distance, en fait, quand on a écrit un livre, on a l'impression qu'il nous appartient plus et on a presque l'impression de ne plus l'avoir écrit. Donc c'était très 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 agréable d'entendre à nouveau ce voyage. Alors pourquoi être parti dans ce roman jeunesse? Pour moi, il n'y a pas véritablement de roman jeunesse, c'est-à-dire que c'est un roman qu'en effet des éditeurs de Flammarion Jeunesse m'ont demandé d'écrire à partir de mon précédent roman, Un fils obéissant, qui sorte de dommage à mon père. Et cette histoire de la Jacobine est une histoire que me racontait, évidemment, modifiait mon père quand j'étais enfant. Donc c'est un peu, si vous voulez, la transfiguration de l'histoire de mon grand-oncle Jacob Saxic.
Alors, c'était la question naturelle que j'allais vous poser, justement, c'est que, évidemment, c'est de la littérature, mais on cherche toujours, le lecteur que nous sommes, des éléments biographiques, donc c'est une histoire basée sur des faits réels que vous racontez.
C'est à la fois une histoire basée, oui, c'est une histoire basée sur des faits réels, mais complètement transformée, et un peu à la manière de ce que me racontait mon père enfant. Moi, j'ai raconté,
Alors, racontez-nous l'histoire de votre oncle.
Elle est de façon plus concrète, ce grand-oncle dans le roman Un fils obéissant, et si vous voulez, un écrivain a besoin de tout un roman pour raconter une histoire,
oui.
Donc je ne peux pas vous la résumer ici, mais cette histoire de Jacob et de la Jacobine, de la manière d'ailleurs dont vous l'exprimiez, dont vous la résumiez, me fait penser que de façon sempiternelle à travers mes romans. Finalement, je ne fais à la fois pour cet enfant qui part, dont le père a dû fuir, interrompre ses études, a voulu créer quelque chose pour faire le bien, finalement, se retrouve confronté à la haine et voyage autour du monde en un exil permanent, je réalise que je ne fais que raconter l'histoire juive. Et en ce sens-là, ce n'est pas un roman jeunesse, c'est un roman qui peut-être m'a fait retrouver ma propre jeunesse d'écrivain, dans le sens que je n'étais absolument pas, j'écrivais totalement sans entrave, j'écrivais avec une forme d'humour que je n'ai pas dans les autres romans, dans Les Derniers Jours de Stefan Zweig, dans Le Cahier d'Edward Einstein, et j'écrivais en laissant complètement aller ma plume finalement. Et si le premier chapitre a pour titre le goût du paradis et le dernier la terre promise, c'est finalement une odyssée que traverse Victor Sanson, une odyssée qui est littéralement une odyssée juive. Et la deuxième chose, c'est que je réalisais cela en vous écoutant, c'est que ces rencontres avec ces personnages à travers l'histoire, avec Chaplin, avec Einstein, avec Jean Jaurès, finalement me font dire que je répète aussi à la fois cette histoire juive et ce livre qui m'a tant marqué à l'âge de 20 ans quand je voulais devenir écrivain et qui est Le Monde d'hier. Et finalement, si cela devait être un roman jeunesse, l'épopée de Victor Sanson serait finalement inspirée du monde d'hier, c'est-à-dire ce parcours initiatique d'un homme, Stefan Zweig en l'occurrence, à travers l'histoire, à travers ces grands noms qu'il va rencontrer dans le monde d'hier. Donc j'ai l'impression qu'on réécrit toujours le même livre. Là, c'était de manière différente pour répondre à votre question, c'est-à-dire sans... en m'appliquant évidemment sur le style, comme doit le faire tout auteur, mais en étant véritablement libéré de tout souci de trop bien écrire et en me laissant emporter par l'aventure. Et alors, en ayant un autre modèle qui était Oliver Twist de Dickens.
On sent dans votre écriture, hein, puisque j'ai lu vos autres ouvrages aussi, vos autres romans, qu'il y a un choix d'une écriture à la fois simple et efficace. Et ça fonctionne bien. Alors justement, on parlait de ces grands noms du monde d'hier que le personnage croise, Einstein, Jean Jaurès, Trotsky, Charlie Chaplin. Pourquoi cela? Comment vous les avez choisis?
Alors en réalité, je crois qu'un auteur, je ne choisis pas, c'est l'aventure. C'est l'histoire du roman, c'est le récit qui conditionne ces rencontres, et c'est aussi évidemment mes propres fantasmes et mes propres admirations, c'est-à-dire que pour revenir d'ailleurs à votre remarque, ce Victor Sanson, c'est aussi moi écoutant l'histoire de mon père quelque part, quand j'écris du moins, et ces rencontres, notamment avec Einstein, avec Chaplin, j'ai l'impression de les avoir vécues. Dans la mesure où j'ai travaillé longtemps, j'écris une biographie d'Einstein chez Gallimard, j'écris un roman, vous l'avez dit, le cas Edouard Einstein, et puis une pièce de théâtre qui a été jouée l'an dernier à la Comédie des Champs-Élysées avec Michel Jonas notamment. Donc quelque part, si le personnage rencontre Einstein pour dans le cadre de son aventure, parce que Einstein va sauver en réalité quelque part la production de la Jacobine, eh bien c'est aussi parce que j'ai l'impression de l'avoir côtoyé en écrivant l'histoire dramatique de son fils ou en racontant son histoire à travers une biographie. Donc c'est une sorte d'enchevêtrement à la fois de sa vie. Ma vie personnelle d'écrivain, et puis de l'aventure d'un petit personnage inventé.
Alors, si vous me le permettez, je vais citer justement un passage qui est lié au chapitre consacré à Albert Einstein. Je vous lis. « Contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui, où l'on tente désespérément de séparer les matheux et les littéraires, les deux allaient ensemble aux temps anciens que personne n'a connus. Le terme de philosophie signifie amour de la sagesse en grec ancien, mais aussi désir de connaissance. » Si vous mélangez les deux, vous avez la métaphysique ou connaissance du monde. Albert Einstein avait non seulement lu tous les physiciens avant lui, Archimède, Galilée, Newton, pour ne citer que les plus connus, mais aussi tous les plus grands philosophes, Socrate, Kant, Schopenhauer, Spinoza, la liste est longue. C'était ce que l'on appelle les sciences humaines, et le professeur Einstein était un grand humaniste. Au mur de son bureau était fixé un grand tableau de couleur verte, rempli de formules de sa composition et de son goût, un peu comme un peintre avec sa toile. Quelle belle leçon qui est transmise à des enfants !
Oui, cela permet d'apprendre qui était Einstein, même pour ceux pour les adultes qui ne connaissaient pas tout à fait le personnage. Cela dit aussi, toute son humanité et tout son combat, ce sont des voies, moi, que je souhaite en permanence faire réentendre à travers mes romans, la voix de Romain Gary avec Romain Gary s'en va en guerre, la voix de Stefan Zweig, la voix d'Einstein. Ce sont des voix aujourd'hui qui sont complètement fondues dans le chaos de violence, dans cette espèce de fusion permanente de haine que l'on perçoit et qui nous abreuve. Et ces voix-là, celle de Chaplin aussi, qui était un immense humaniste, moi j'aime à les transmettre, toujours sous forme romanesque, toujours sous forme d'histoire, toujours en ramenant l'intime et en rapportant la grande histoire à travers la petite. Mais donc c'est un souci permanent de ces voix qu'on n'entend plus dans le chaos d'aujourd'hui, et qui ont des choses à nous dire, celle de Zweig, celle de Gary, celle d'Einstein, qui résonnent. Ce sont des voix juives, celle de Chaplin ne l'est pas, mais qui disent des combats que l'on doit mener contre la haine.
Alors justement, vous parlez de cette voix de Charlie Chaplin. La rencontre de Samson avec ce personnage est autant incroyable que les autres. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne le connaît plus assez parmi la jeunesse. Est-ce que c'était l'idée de remédier à cette lacune, justement, par ces chapitres qui présentent de manière claire, avec des leçons, avec des messages, ces personnages importants de l'histoire mondiale ?
Oui, c'est à la fois faire passer des messages, mais essayer, comme vous le disiez au départ, de le faire de façon le plus subtile possible. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est une aventure. Avant tout, ce Victor Samson qui veut aller à Atlanta pour vendre à Coca-Cola l'invention de son père, et qui va, au lieu d'aller vers l'Ouest, être empêché et aller dans les tranchées, vous l'avez dit, être soldat dans les tranchées et vivre cette terreur de Verdun, et puis être espion à Berlin, et puis être un héros en Union soviétique et en rencontrant Trotsky, pour finalement arriver à Hollywood et rencontrer Chaplin. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'histoire, c'est ce souffle, c'est parfois cet humour, c'est parfois c'est cette aventure. Donc c'est de raconter une histoire en suscitant l'émotion. Ensuite, en arrière-plan et en filigrane, mais comme dans mes autres romans finalement, ou dans les autres pièces de théâtre, c'est d'essayer d'enseigner ce que j'ai pu comprendre en travaillant des années au contact de ces figures-là, parce que ces figures sont au-delà de leur génie, au-delà du génie physique d'Einstein, du génie littéraire de Zweig, de Gary, ou du génie pictural de Modigliani, dont j'ai fait une pièce de théâtre. Elles symbolisent un humanisme qui se perd aujourd'hui, et donc c'est simplement en arrière-plan raconter et délivrer ce message. Mais un romancier n'est pas un intellectuel d'ailleurs. Un romancier avant tout raconte des histoires, et puis aussi d'une certaine manière et de façon répétée à chaque ouvrage. Mon prochain sujet sera Kafka, le sujet de mon prochain roman. C'est de tenter de trouver un nouveau moyen de raconter l'histoire juive. C'est-à-dire à travers ces symboles presque homériques, ces Achilles, ces Hector des temps modernes, que sont Gary, Zweig, Kafka, Einstein, parce qu'ils se sont engagés justement, c'est de tenter de ressusciter les morts et de ressusciter les victimes, de le faire non pas en donnant une leçon d'histoire, mais en essayant de raconter une histoire émouvante.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Laurent Sexic, qui nous parle de son premier roman jeunesse, La folle épopée de Victor Samson, qui paraît chez Flammarion. Vous venez de le dire, il y a une aventure, des valeurs, un souffle qui traverse votre roman. Est-ce que finalement, cette parabole de l'histoire juive n'est pas celle qui condense l'histoire de l'humanité? Est-ce que s'il y avait un sous-message sous-tendu, ce serait celui-ci?
Je ne sais pas si elle traverse l'histoire de l'humanité, mais en tout cas, c'est notre histoire. Et elle a la splendeur et les tragédies d'une histoire exceptionnelle. Elle porte les valeurs d'une histoire exceptionnelle. Elle traverse aussi l'histoire de l'humanité dans le sens qu'elle traverse le monde et elle traverse les temps. Elle est unique en ce sens-là. Et c'est pour cela, sans doute, que pour un écrivain, pour un romancier ou pour un dramaturge, ce matériau-là est quelque chose d'extrêmement précieux, d'extrêmement fragile, d'extrêmement subtil, pour ma part, dans mon travail d'écrivain, j'essaye en effet de transmettre. C'est une odyssée exceptionnelle. C'est une odyssée qui est sans commencement et sans fin, et qui me transcende quand j'écris. C'est-à-dire que c'est une odyssée qui vous porte, cette odyssée juive. Il y en a d'autres, il y a d'autres histoires, moi j'écris aussi sur d'autres sujets, mais celle-là, à travers le biais de certains de personnages en tout cas, puisque cela a été le choix de mon écriture, elle est passionnante à rappeler, tout en suscitant l'émotion et en faisant voyager, en faisant réfléchir.
Alors justement, parmi les valeurs que l'on lit en filigrane, il y a la peur de ce qui est différent, de l'étranger, de l'autre. Hein. On voit comment se termine la vie du père de Victor. Je ne sais pas s'il est nécessaire de le raconter, puisque c'est un moment important de l'ouvrage qui justifie le départ de Victor Sanson. Est-ce que ce message-là était important aussi à faire passer ?
Oui, c'est un, comme je le rappelais, c'est aujourd'hui plus sans doute que depuis longtemps, il faut prévenir des dangers de la haine, des dangers de la violence verbale, des dangers de l'intolérance. Alors ça, quand je parle ainsi, c'est un peu simpliste, mais il faut se prévenir soi-même de ne pas dire abruptement ce que l'on pense. Il y a des filtres dans la pensée, dans l'action, à s'imposer. Pour rester dans une forme de réflexion, pour rester dans une forme d'intelligence, dans une forme de nuance qui seule peut permettre de continuer à avancer, de continuer à espérer. Et cette nuance-là, qui est vraiment celle d'un Zweig ou celle d'un Gary ou celle d'Einstein dans ses ouvrages philosophiques, il est bon en effet de les rappeler. Encore une fois, par la voie romanesque, c'est-à-dire toujours, pour ma part, je ne suis pas philosophe, par l'aventure et par l'émotion.
Est-ce que vous avez pris du plaisir à écrire dans ce registre du roman jeunesse? Est-ce qu'on peut envisager qu'il y en aura d'autres, romans jeunesse?
Oui, c'est un immense plaisir. Parce que d'abord, je crois, vous me le direz mieux que je ne saurais le dire, le livre est souvent drôle. Je ne sais pas si vous avez souri. Et cette aventure totalement à la fois débridée, qui est un tour du monde en réalité, qui est une odyssée, les critiques ont dit entre Forrest Gump et Tintin. Il y a du Zelig aussi dans ce personnage. Moi, j'ai adoré le personnage de Victor Sanson et j'ai pris véritablement c'était savoureux à écrire et j'espère que ça l'est à lire.
Ça l'est absolument à lire. Et puis, il y a cette formule amusante aussi à la fin de l'ouvrage pour les jeunes de 11 à 77 ans. Et il faut dire que vraiment, ce roman s'adresse à tout le monde, des plus jeunes aux moins jeunes. On peut peut-être même lire des chapitres à des enfants de moins de 11 ans. Et c'est efficace, amusant, et ça fait réfléchir, et ça donne aussi des bribes de valeurs que l'on souhaiterait inculquer à nos enfants. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre roman, qu'est-ce que vous leur diriez ?
En une, deux, oui, c'est vrai que c'est
pas facile, hein.
Oui, absolument. C'est l'aventure extraordinaire qui est arrivée à un jeune homme ordinaire, un jeune garçon, et c'est également, je crois, une histoire où chacun peut se reconnaître. Peut reconnaître son père, sa mère, son grand-père, son arrière-grand-père. Il y a dans ce voyage extraordinaire un peu de nos voyages à nous.
Merci beaucoup Laurent Sextigue d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité, la parution de La folle épopée de Victor Sanson qui vient de paraître chez Flammarion. Je voudrais juste dire pour conclure cette petite phrase que c'est un ouvrage vraiment que l'on ne peut que recommander aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom. On le sent sur la nuque, le souffle de l'histoire juive qui passe entre les lignes, et je pense que c'est un formidable cadeau de Hanouka qui arrive à s'offrir ou à offrir quand on est invité ou pas, ça dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. En tout cas, merci beaucoup, et puis j'espère à très bientôt pour une prochaine actualité.
Merci mille fois, Sandrine.